Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie d'Oscar Couder, David Jane et moi-même Thierry Burnier. Nous allons vous présenter deux feuilletons portant sur Maïdan et les femmes scientifiques et finalement une chronique sur la chute du mur de Berlin. Commençons tout de suite par le feuilleton sur Maïdan.
Bienvenue dans notre émission spéciale sur Maïdan et les prémices de la guerre en Ukraine, poursuivant la précédente chronique où était abordé le sujet de la Syrie.
La générale de la mission est de voir pourquoi Maïdan nous amène à plonger dans le début du conflit russo-ukrainien. L'enjeu de cette émission, c'est de partir d'un constat dans le journal Le Monde que la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2023, mais que le compte à rebours a commencé bien avant. L'idée, c'est de savoir s'il y avait des signes de ce compte à rebours dans la presse et s'ils étaient accessibles aux lecteurs de l'époque.
Pour cela, Thierry et moi-même avons examiné trois articles clés sur ce sujet dans le journal Le Monde. Commençons tout d'abord par un bref rappel sur ce qu'est Maïdan.
De novembre 2013 à février 2014, la place principale de Kiev en Ukraine est le lieu de grandes manifestations où les Ukrainiens favorables à l'Europe s'opposent aux forces du gouvernement. Les manifestants demandent moins de corruption, plus de démocratie et veulent se rapprocher de l'Union Européenne tout en préservant leur identité nationale. La Russie s'inquiète de ces changements et envahit la Crimée, déclenchant ainsi la guerre dans l'est de l'Ukraine, appelée la guerre du Donbass en 2014.
Avec la guerre en Ukraine actuellement en cours depuis le 14 février 2022, nous allons plonger dans la période Maïdan à travers trois articles parus dans le journal Le Monde de l'époque. Cela nous permettra de voir s'il y avait des signes dans la presse d'un potentiel conflit avec l'ampleur que nous lui connaissons aujourd'hui.
Car selon le professeur Jean-Pierre Filiu du Sciences Po, dans son article publié dans le journal Le Monde le 19 février 2023, pour l'Ukraine, la guerre a débuté en 2014 et non en 2022.
Thierry, quels sont les articles que nous avons examinés dans la presse de l'époque en lien avec Maïdan ?
Les trois articles du journal Le Monde auxquels nous nous sommes intéressés sont par ordre chronologique. Celui du 25 novembre 2013, écrit par la chroniqueuse Sylvie Kaufmann, qui met en lumière le choix crucial de l'Ukraine entre rester sous le giron de la Russie ou aspirer à un rapprochement avec l'UE. Celui du 23 février 2014 de Piotr Smolar, journaliste correspondant à l'étranger, qui décrit un renversement de régime spectaculaire avec la libération de Tymoshenko, première ministre de l'Ukraine. Enfin, celui du 28 février 2014, écrit par les journalistes Yves-Michel Riols, Frédéric Lemaître et Corinne Lesnes, qui évoque la Crimée en pleine effervescence politique.
Y avait-il déjà de l'inquiétude à ces moments ? Parce que dans l'article du 25 novembre 2013, au début de la période de Maïdan, par exemple, on mentionne explicitement la guerre froide. Je cite « Il est tentant de réduire cet échec à un affrontement géopolitique Est-Ouest. La guerre froide est de retour, avec Poutine, l'ancien colonel du KGB, dans le rôle de Brejnev des temps modernes. L'échec est celui de se libérer de l'emprise de la Russie. »
Oui, regarde. Au lendemain du renversement du régime, le 22 février 2014 et son article du 23 février 2014, il y avait une inquiétude côté occidental au niveau des chancelleries. Je cite « L'inquiétude monte au sujet du pire des scénarios, les menaces sur l'intégrité territoriale du pays autour d'une région clé, la Crimée. »
Oui, je vois maintenant. Mais pas tout le monde était convaincu. Selon l'article du 28 février 2014, en Occident, nous avons l'administration Obama qui s'inquiète. Je cite « Nous espérons que la Russie ne verra pas ce qui se passe en Ukraine comme une continuation de la guerre froide. Ce n'est pas Rocky V. » L'inquiétude qui était aussi partagée du côté allemand, je cite « Les Allemands observent la stratégie de la tension menée par la Russie avec une certaine inquiétude. Espérer que Poutine bluffe est la devise de certains, mais pour d'autres, je cite, c'est un risque énorme. Et il y avait, je reprends du texte, un vrai conflit entre la Russie et l'Union européenne.
En résumé, les articles explorés font clairement référence à la guerre froide, évoquant la résurgence des tensions entre la Russie et l'Occident, due essentiellement à des différences idéologiques entre les régimes autoritaires et les démocraties occidentales. Le double jeu de Kremlin créait, durant cette période Maïdan, un climat de méfiance chez les Occidentaux qui alimentait les craintes d'un conflit entre l'Est et l'Ouest, assimilé à la guerre froide. Malgré les tonalités pessimistes dans plusieurs journaux, y avait-il des aspects plus rassurants et moins dramatiques ?
Certains éléments suggèrent qu'une résolution pacifique pouvait être envisageable, apaise aussi les craintes du lecteur. Selon l'article du 28 février 2014, il y avait une volonté de la part de la Russie à dédramatiser et ne pas nourrir l'escalade. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov avait répété au secrétaire d'État américain que la Russie entendait, je cite, « respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine ».
Toujours selon cette même source, je cite, « à Paris, on estime que Moscou va continuer à maintenir deux fers au feu et laisser mijoter la situation en Crimée tout en soulignant que les Russes n'ont pas non plus intérêt à ce que l'Ukraine leur claque entre les doigts ». Par ailleurs, une idée largement partagée à Berlin est que la stabilisation pacifique de l'Ukraine ne peut réussir qu'en collaboration avec la Russie. On peut se demander si la stabilisation pacifique n'était pas dans l'intérêt de l'Allemagne vu sa forte dépendance énergétique par rapport au gaz russe.
C'est sous l'angle économique qu'un journaliste a pu estimer que les tensions allaient s'apaiser. En effet, la Russie pourrait être motivée par des considérations économiques à maintenir une certaine stabilité dans la région. Cela met en lumière le jeu complexe des intérêts en jeu.
Pour résumer, il est essentiel de noter que les articles ne peignent pas uniquement un tableau sombre de tensions et de risques de guerre. Les avis divergent, certains pensent que la situation risque de s'aggraver, tandis que d'autres estiment que la situation pourrait s'améliorer ou se calmer.
Pour revenir à l'avis de l'historien Filu, et que le début de la guerre était en 2014 et non en 2022, bien que le début des hostilités armées significatives était en février 2022, Maïdan a été un tournant majeur pour les Ukrainiens car la manifestation a profondément influencé les relations entre l'Ukraine et la Russie. Cette révolution a représenté un événement clé dans la séquence menant à l'éclatement de la guerre, déclenchant l'agression de la Russie toujours en cours contre l'Ukraine.
Merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Restez à l'écoute. Tout de suite, un extrait de Michael Jackson, Heal the World.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space.
Nous voilà de retour à l'antenne avec mon cher Devic cette fois, pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais qui est souvent négligé.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Et oui Terry, tu fais bien d'introduire le sujet dont nous allons parler. Nous allons continuer le feuilleton sur les femmes scientifiques et allons parler de leur rapport à la société de nos jours.
Effectivement Devic, on a posé des questions sur différents sujets à différentes femmes scientifiques. Nous allons nous concentrer sur les aspects de leur vie sociale pour ensuite comprendre un ou plusieurs aspects de notre société.
Pour rappel, nous avons eu l'honneur d'interviewer Delucia Marzia, 46 ans, maître d'enseignement et de recherche dans le département of Clinical Neurosciences, Kinenberger Karen, 50 ans, biologiste marine, Klockenmann Julia, 50 ans, médecine dentiste, et Adam Véronique, âgé de 50 ans, Head of Acoustics Gold Moon.
Nous leur avons posé deux questions sur leur vie sociale. Devic, peux-tu nous rafraîchir la mémoire et nous lire ces questions ?
Bien évidemment. Les questions étaient, quelles étaient les réactions d'autrui quant à la découverte des statuts qu'ont nos sujets en tant que femmes scientifiques ? Et quels stéréotypes liés au genre, s'il y en avait, ont-elles ressenti en tant que femmes scientifiques et si ceci avait impacté leur vie sociale ?
Grâce à ces questions, les quatre interviews nous ont permis de décrire le milieu social dans lequel les femmes scientifiques évoluent, leur quotidien qui, aux yeux de tous, passe inaperçu dans l'ombre de leur carrière professionnelle. Ainsi, découvrons ensemble cet aspect et comment sont affectés les liens sociaux de nos chères femmes scientifiques.
Il faut tout d'abord noter que les interviews ont décelé un point commun à toutes. À ton avis, Quel était le point commun en ce qui concerne le regard des autres sur elles?
Un point commun dans leur relation? Tu veux dire qu'elles ont un entourage en commun?
Non, je veux dire que leurs relations ont un détail en commun. Effectivement, elles nous avouent que les personnes qu'elles côtoient ressentent une forme d'admiration à leur égard.
Voyons voir ce que nous dit Madame Kinberger à ce sujet.
Une fois, j'étais à la police pour une nouvelle carte d'identité. Puis soudain, le mec, quand il voit Job, scientifique de la mer, ah, mais j'ai jamais eu quelqu'un. C'est-à-dire, oui, les gens sont toujours. Mais c'est surtout, pour moi, c'est plutôt l'océan qui les fascine, c'est pas tellement le doctorat. Moi, c'est plutôt, ils n'ont jamais vu quelqu'un, ils n'ont jamais parlé avec quelqu'un qui a étudié l'océan. Et puis en plus, moi, j'ai fait ma spécialité sur les méduses. Alors, c'est pour ça que là, je reçois tout le temps des questions. Quoi.
On voit qu'une fascination est bien présente, mais quel est l'impact de cette fascination? Comment les gens montrent-ils cette fascination? Madame Véronique nous apporte un début de réponse à ce sujet.
C'est presque l'inverse quand les gens te présentent et te disent « elle a fait ça, elle a fait ça ». Moi, je suis plutôt assez… j'aime pas trop me mettre en avant déjà. Donc, quand les gens te présentent en te disant tout ce que tu as fait, tu dis « bon, ok… ». Faut pas exagérer non plus, faut rester dans un mode normal. Donc j'ai plutôt l'impression que toujours les gens veulent me survendre. Peut-être parce que je suis une femme, ça c'est possible.
Hein. Et intéressant.
Elle a fait ça, elle était capable, c'est une super woman.
Il est intéressant de voir que cette fascination a différentes applications. Chez l'une, le policier admire son travail et semble simplement s'y intéresser. D'un autre côté, Madame Adam Véronique nous laisse entendre que les gens la présentent en admiration de son travail. Mais cette admiration peut être prise, comme elle le dit si bien, comme pour montrer qu'elle est une superwoman.
Cela, cependant, porte un sous-entendu. Si on considère que notre interlocutrice est une superwoman, on sous-entend qu'il n'est pas à la portée de toutes les femmes d'accomplir de telles carrières professionnelles, et qu'ainsi, une femme scientifique se trouve être une exception, et cela devient donc un stéréotype, ce qui peut porter préjudice selon l'interprétation.
Tout ça est fort intéressant, mais avec cette fascination qui existe, n'est-ce pas une bonne occasion d'impressionner notre entourage?
Eh bien, cela peut malheureusement être un frein, comme nous l'explique Madame Kingenberger.
Je suis en train de dater et les hommes très souvent ils se disent mais je vais pas sortir avec une nana qui a un doctorat, quoi. Ça veut dire que ça impressionne. Il y a beaucoup d'hommes qui sont impressionnés, et même si eux ont un docteur, ils sont pas toujours d'accord. Ça veut dire oui,
un peu intimidé,
absolument.
Ici, notre interlocutrice montre le fort impact que sa carrière de femme scientifique a sur sa vie sociale. Ses relations sont directement impactées par sa condition. Elle nous explique même que les hommes sont réticents à sortir avec une femme ayant un doctorat.
Pas facile d'être doctorante. En plus du travail conséquent, les rencarts semblent peu concluants. Compliqué de construire une vie de famille.
Eh bien, détompe-toi, c'est un préjugé. Effectivement, Madame Marzian vous fait part de son ressenti en tant que mère.
C'est l'idée que si tu as une carrière scientifique, tu n'as pas nécessairement une famille, tu n'as pas nécessairement des enfants. Donc souvent, j'ai l'impression, quand je vais dans certaines réunions ou dans des soupers officiels, des choses comme ça, si je dis que j'ai deux enfants, les gens me regardent avec une certaine surprise. Parce que souvent, les femmes qui sont dans le milieu n'ont pas des filles, des enfants.
Les gens présument que les femmes scientifiques n'ont pas d'enfants, et on apprend grâce à l'interview de Marisa que cela surprend même les collègues de réunion.
Ces bribes d'interview nous montrent que les femmes scientifiques sont entourées d'idées préconstruites et sont perçues comme des superwomen. Mais pourquoi ces préjugés?
Marisa nous apporte une piste dans son interview.
C'est très conservatrice, et ça c'est clair. L'Italie aussi, mais de façon un peu différente. Je pense qu'en Suisse, il y a beaucoup plus de femmes qui sont à la maison qu'en Italie, qu'en Angleterre. Et ça, c'est quelque chose d'assez lourd, je trouve.
La Suisse est conservative. En plus de ça, plus de femmes en Suisse sont femmes au foyer. On peut alors se demander, est-ce que les préjugés persistent simplement, car les femmes scientifiques sont plus rares en Suisse que dans d'autres pays, ou c'est le côté conservatif de la Suisse qui rentre en jeu?
Un bon exemple de ces préjugés persistants est l'interview de Madame Klockmann.
Surprise, et puis souvent les gens ne comprennent pas ce que je fais. Ils posent une question ou ils comprennent que je fais autre chose, notamment que je suis assistante ou secrétaire. Ils ne captent pas quand je leur dis que je suis médecin dentiste, ils ne captent pas que je suis médecin en fait.
Avec cette réponse, nous pouvons très bien analyser un des problèmes dans notre société. C'est que beaucoup d'hommes sont encore très conservateurs dans leurs idées très vieillies. Ils associent les femmes à des métiers correspondant aux normes de genre de l'époque, comme en témoigne le rôle de secrétaire, par exemple.
Effectivement, ils ont des idées préconstruites sur leur métier. Sur cette note grave, n'oublions pas que tous ne participent pas à cette dégradation, et comme exemple, la chanson de John Lennon, Woman. Merci de nous avoir suivis.
Chers auditeurs, nous revoilà, mais cette fois-ci pour une chronique presse et événements. Vous êtes-vous déjà demandé si les événements étaient prévisibles ? Les guerres, les choix politiques et les événements majeurs relèvent-ils de la surprise ou sont-ils inattendus ? C'est ce que nous allons essayer de déceler aujourd'hui.
Effectivement, nous allons ensemble feuilleter des journaux quotidiens. Cela veut dire que les journalistes les écrivent le jour même. Et ces journaux font partie du journal Le Monde. Et on va lire des journaux datant des dernières 48 heures avant la chute du mur de Berlin, afin de définir si les lecteurs de l'époque pouvaient se douter de cet événement majeur. Mais tout d'abord, Devic, pourrais-tu nous éclairer sur le cadre historique qui englobe cet événement ?
Alors, concentrez-vous, je vais vous faire un petit point historique. La guerre froide a opposé le capitalisme occidental et le communisme soviétique, divisant profondément l'Europe et engendrant des tensions politiques et des rivalités. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a marqué sa fin. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été séparée en deux parties, la partie des États-Unis, dit la RFA, et la partie de l'Union soviétique, dit la RDA. Cette séparation a été symbolisée par le mur de Berlin. Le mur de Berlin, qui a été construit par l'URSS pour que les habitants ne fuient pas le pays. Cette chute du mur de Berlin le 10 novembre 1989 permet la réunification de l'Allemagne et symbolise la fin de la division européenne et de la guerre froide.
Grâce au contexte que nous venons de discuter, nous allons établir ce à quoi les journalistes s'attendaient face au déroulement de la situation qu'ils vivaient, qui a précédé la chute du mur de Berlin à l'aide de la presse de l'époque.
Ah, c'est déblatéré. Il est temps de s'attaquer à ces extraits de journaux. Nous avons trois journaux datant respectivement du 8, 9 et 10 novembre 1989. La presse du 10 novembre est donc le journal du jour même de l'événement.
On a donc trois extraits de ces journaux à notre disposition, mais à quoi nous servent-ils ?
Eh bien, l'analyse de leur composition nous permettra de déterminer quels facteurs précurseurs des événements futurs étaient accessibles aux gens de l'époque et définir quels étaient les éléments qui préoccupaient les journalistes de cette époque.
C'est vrai qu'avec ces journaux sous les yeux, leur composition nous montre tout de suite les moments les plus marquants. Ils ont soit un titre en gras et gros, soit ils occupent plus de place. En ce qui concerne les deux pages du journal du 9 novembre, nous avons un titre principal pour chaque page qui semble être l'élément majeur On a Bureau politique rajeuni et New York Vireau Noir. Ces titres en gras représentent la police la plus importante du journal.
Leur composition nous révèle déjà des choses, certes, mais le contenu nous en dira encore plus. Commençons avec le premier journal datant du 8 novembre 1989 et voyons voir si nous trouvons des indices sur des possibles suspicions des journalistes du passé.
Volontiers, on a le journal juste sous les yeux. C'est dommage que ne vous le puissiez pas voir, mais nous allons essayer de vous le retranscrire. Ce qui nous frappe directement est le titre principal de la première page que nous avons. Le titre est « Double défilé à Moscou ».
Le reste du journal nous parle par exemple du prince Charles dans son jardin à Java, les élections aux États-Unis. Mais ce qui va vraiment nous intéresser dans cet article, c'est qu'il parle de Moscou, donc de l'URSS. Et comme nous le savons, c'est l'Union soviétique qui a poussé la construction du mur. Bon, vous êtes sûrement impatient de savoir pourquoi l'article sur les défilés à Moscou est si important pour analyser notre thème sur la chute du mur de Berlin. Oscar, peux-tu nous dire pourquoi il est question, de quoi il est question dans cet article ?
Avec plaisir. Cet article écrit par Yael Reinhardt rapporte les événements entourant la cérémonie officielle du défilé sur la place Rouge à Moscou pour célébrer l'anniversaire de la révolution d'octobre en 1917. L'article nous dit aussi qu'en parallèle au défilé officiel, une manifestation alternative a eu lieu. Elle avait pour but de montrer le mécontentement du peuple à l'égard des divers aspects de la société soviétique.
Ah, c'est très captivant de voir que peu avant la chute du mur, il y avait des conflits à l'intérieur de l'Union soviétique. De plus, il est aussi intéressant de voir qu'il y a surtout eu des manifestations dans les régions dites pays satellites de l'Union soviétique, c'est-à-dire les colonies. Terry, as-tu repéré ces passages dans l'article, Oscar ?
Logiquement, on a premièrement, je cite, plusieurs dizaines de milliers de Géorgiens qui ont participé à des rassemblements au cours desquels ont été brûlés des drapeaux soviétiques. Et de plus, il y a aussi en Lituanie où des jeunes gens ont brandi des banderoles sur leur passage. Et sur ces banderoles, il y avait des mots comme « Armée rouge, go home » et « Nous ne voulons pas servir dans une armée d'occupation ».
Merci. On peut donc remarquer que plusieurs régions de l'Union soviétique veulent devenir indépendantes.
Il n'y a donc pas d'éléments concrets ou d'indices qui font croire aux lecteurs de l'époque que la chute du mur va avoir lieu dans 2 jours. Cependant, cet article du journal nous montre que l'environnement était propice au changement. Passons maintenant au second journal du 9 novembre. Il va nous être pertinent pour définir l'état d'esprit des journalistes. Nous allons intéresser à la page 17 de ce dernier.
Il est vrai que la page 16, elle nous intéresse moins, même si elle semble très investie dans la politique suisse avec une campagne du parti des automobilistes occupant 50% de la page et les autres 50% qui concernent le fameux titre New York Vireau Noir.
Et effectivement, malheureusement, cette partie nous apprend pas grand-chose sur les prémices de la possible chute du mur.
Voilà, et il est vrai que dans le cadre de cette chronique, la page 17 semble bien plus captivante, surtout grâce à M. Kohl. Il était un homme politique allemand et a été chancelier de la République fédérale d'Allemagne de 1898 à 1898. Il a joué un rôle majeur dans la réunification de l'Allemagne en 1990, on continue.
Effectivement, ce cher monsieur Kohl, comme tu viens de le dire, nous a apporté des éléments pour définir la pensée du passé. Est-ce que tu aurais déjà un passage en tête, Devic ?
Ah, tu me connais trop bien, effectivement. Je pense à l'encadré sur la droite de notre page 17. Kohl nous dit « Nous avons moins de raisons que jamais de nous satisfaire de l'existence des deux États allemands. »
Et qu'aimerais-tu mettre en évidence avec ce passage ?
Eh bien, on comprend qu'il y a une réelle envie de réunifier l'Allemagne. Du moins, il ne faut pas se satisfaire des deux Allemagnes. Les gens ont donc sûrement envisagé avec cette phrase une réunification de l'Allemagne. Toutefois, personne ne s'attend à ce que ça arrive le lendemain.
Pour renforcer l'idée que les journalistes imaginaient une Allemagne réunifiée, Kohl dit un peu plus bas dans le journal « La réunification de l'Allemagne, c'est donc quelque chose d'envisageable selon les dires cités dans le journal. » De plus, dans le gros titre « Bureau politique rajeuni », on nous dit, je cite « Population sceptique, plus en plus nombreuse à descendre dans les rues et réclamer le départ du PC. » On comprend donc que les choses vont vers une réunification sans indice sur la chute future du mur.
Ouais, effectivement. Toutefois, malgré tous ces indices, rien n'est sûr quand on parle du futur. Nous savons que le mur de Berlin s'est écroulé en et l'Allemagne s'est réunifiée. Mais aucun moyen pour une personne de l'époque d'être sûre du déroulement des événements.
On apprend aussi avec ce journal que la réification de l'Allemagne ne plaît pas à tous. On apprend que 44% des Polonais éprouvent de l'intimité ou de l'antipathie envers les Allemands, contre 20% seulement de la sympathie. On peut donc aussi penser que certaines personnes ont une vision plus pessimiste du futur ou pensent même que la réunification de l'Allemagne est un problème.
Oui, ouais. On dit aussi le terme pan-germanisme dans ce même article. Ce terme est utilisé pour définir la France et la Pologne qui garderaient une séquelle du pan-germanisme et qui verraient dans cette réunification un risque.
On déduit donc avec ce deuxième journal que plusieurs visions existent dans la population. Voyons voir maintenant le troisième extrait datant du 10 novembre 1989.
La première page de ce document est composée par une image comprenant presque les deux tiers de la page. On y voit le gros titre « Ouvert, exit le mur ». Les autorités de Berlin-Est ont annoncé hier, en début de soirée, que la République démocratique allemande ouvrait ses frontières avec la RFA et permettait désormais à ses citoyens de voyager où bon leur semble.
Tout à fait, mais pour l'ampleur de l'événement, de notre point de vue, il n'est pas surprenant que le sujet du journal se porte sur la chute du mur. Cela en sachant que dans les journaux antérieurs, il y avait nulle mention de l'importance que le 10 novembre aurait.
En effet, car en nous intéressant plus aux nouvelles que sont cette fameuse chute du mur, on comprend que les acteurs historiques interprètent tous d'unisson l'importance de l'événement décision historique. Le sentiment général est celui de l'approbation, même et surtout du côté capitaliste. Je cite Bush, très content.
Cependant, il y a aussi une grande préoccupation concernant la rapidité avec laquelle le mur a chuté. On comprend donc que cette nouvelle est reçue avec surprise et que vive inquiétude, congrès d'urgence. Et certains, Monsieur Kearns, demandant qu'on lui laisse plus de temps. Cela car une grande migration est anticipée suite à l'ouverture des frontières. Stopper l'exode, on nous dit. Peut-être s'agit-il des réformes pour éviter une exode massive ou des gros changements sociopolitiques, voire économiques.
Bon, tu parles de surprise, mais on parle aussi du fait qu'il y avait une grande anticipation. Je cite le jour qu'ils attendaient depuis le 13 août 1961.
C'est là où tu te trompes, c'est la surprise parle elle-même. L'événement était anticipé, mais pas ponctuellement, mais était plutôt espéré. Comme vu dans les journaux avant le 10 novembre, peu pointait à la chute imminente du mur.
Ok, je vois, mais alors, on voit que dans le journal, les journalistes avec Blaise Lumpen expliquent la chute du mur avec les événements antécédents. Après la gigantesque manifestation, je cite, on repère la pratique de vision rétrospective. Encore, il est dit que cela était prévisible. Le rideau de fer était percé partout ailleurs.
En conclusion, la chute du mur a surpris. Malgré certains indices, la vitesse a pris de court et personne ne s'imaginait une date. Du moins, comme nous l'avons vu précédemment, certains journaux pointaient vers la réunification.
Merci de nous avoir suivis pour ces deux feuilletons et cette chronique. Le mur est maintenant à terre. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. Et vous laissez au prochain groupe. Mais avant, laissez-vous transporter par la chanson Freedom de Wham, qui est sortie la même année de la chute du mur.